Je fais de mon mieux pour être l'incarnation de la réalité canadienne. En fait, il faudrait que je donne ma présentation un dixième en français. Bon, on va faire ressembler que le bilinguisme existe toujours. So, I just made an anti-Canadian joke. I'm just saying that because I've invited some friends who don't speak French, so they should know what I'm doing. Okay, well, thank you so much to all of you for coming here today, and I'm particularly grateful for Pierre-Michel Maguer for having given me the opportunity to present my work to you, and especially for the exchanges that the series of conferences have made possible. It's been very stimulating for me, even beyond the presentations themselves, because some of the conversations have continued outside the talks. So I've given three talks. The titles are there, and today's a conclusion. There will be two parts. Today I'm kind of taking a bird's eye view and discussing what are the normative implications of some of the ideas that I've developed for over the last 3 weeks. And I will also move on toward a broader research program centered on the sociology of cultural processes. So I will give the first half in French and the second half in English. Okay? So the last conference had been advertised in English, so it's partly why I'm going to give it in English. So only the second part has a PowerPoint presentation, but the first part is really a summary. First a summary and then an elaboration on what to take, what are the normative implications of what I've done. Alors, les trois conférences précédentes ont porté sur le travail que j'ai développé au cours des 10 dernières années, qui concernait dans le premier cas les frontières morales, les frontières de classe et le bien-être collectif, ensuite l'évaluation et finalement la stigmatisation et la discrimination. Et compte tenu qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui n'ont pas pu être là pour toutes les conférences, je vais résumer certains des thèmes majeurs et vous allez voir un peu comment ça se tient ensemble parce qu'il y a quand même des thèmes transversaux qui relient le tout. Alors, dans le premier cours, j'ai revisité mes livres « La morale et l'argent » et « La dignité des travailleurs » dans le contexte des nouveaux développements sur le néolibéralisme qui se sont accentués depuis que les livres sont parus. Money, Morals and Manners était sorti en 92, The Dignity of Working Man en 2000. Et je m'inspire ici en partie des travaux que j'ai co-dirigés avec le politologue Peter Hall, qui portait sur Successful Societies, qu'on a traduit en anglais par le thème bien-être collectif, où on examinait dans un groupe, un collectif qui inclut une quinzaine de chercheurs de différentes disciplines, quels sont les divers critères par lesquels on peut analyser ou approcher qu'est-ce qu'une société qui favorise le bien-être collectif. Et la dimension dans laquelle je me suis spécialisée dans le contexte de cette équipe qui inclut des gens comme Will Kimlicka, qui travaille bientôt, bien sûr, sur le multiculturalisme, Bill Sewell, l'historien, qui travaille sur le capitalisme. On attaque chacun différents aspects de la question du bien-être collectif. Ma spécialité, c'était comment créer des frontières de groupe qui soient plus perméables et qui permettent la reconnaissance de plus grand nombre de personnes, de minorités ethno-raciales, etc. Alors, le deuxième livre qu'on a produit ensemble s'intitulait « Social Resilience in the Neoliberal Era ». Et l'accent, le concept de néolibéralisme, on l'avait approché en analysant les dynamiques qui sont liées à ce qu'on a, la privatisation du risque, le fondamentalisme de marché, market fundamentalism, l'idée que la compétition devient de plus en plus le principe autour desquels les relations sociales sont organisées et les cadrages à travers lesquels les gens définissent la valeur des individus et leur propre valeur personnelle. Dans ce contexte-là, j'ai élaboré sur la question des critères d'évaluation de la valeur des personnes tels que pensés par les classes moyennes supérieures et les classes ouvrières, col blanc et de bas niveau et col bleu en France et aux États-Unis. Et j'ai montré comment les frontières de classe et les frontières raciales sont transformées par la diffusion de répertoires d'évaluation qui sont liés au néolibéralisme. Et dans le contexte de la société française, j'ai décrit rapidement un article que j'ai rédigé en collaboration avec Nicolas Duvaux, où on a soutenu que le succès économique et professionnel est devenu, dans les dernières décennies, une mesure de la valeur encore plus importante qu'elle ne l'était au moment où j'avais conduit mes interviews pour les deux livres, au début des années 90, et que ça a des effets néfastes pour tout le monde, mais en particulier pour les pauvres et pour les membres des classes ouvrières qui sont davantage susceptibles de se voir comme des losers sous l'influence du néolibéralisme. C'est-à-dire que les critères alternatifs d'auto-évaluation ont été progressivement marginalisés. Avec la privatisation du risque, la solidarité vis-à-vis de ceux qui sont vulnérables décroît, et les classes moyennes sont de plus en plus susceptibles de reprocher aux pauvres leur bas statut et leur manque d'autonomie, et plutôt que de se voir comme ayant des responsabilités par rapport aux plus démunis. Alors, on décrit dans cet article qui est paru l'année dernière dans French Politics, Culture and Society, comment la transformation des frontières symboliques dans la société française a mené à une plus grande stigmatisation des pauvres, entre autres. Alors, dans les diverses recherches que j'ai discutées dans cette première conférence, j'en déduis qu'il y a deux grands défis normatifs et politiques devant nous. L'un, c'est la promotion de liens de solidarité et le maintien de pluralité et d'hétérarchie dans nos critères d'évaluation. Alors, si de plus en plus les pauvres se définissent comme losers, il faut être bien conscient qu'il y a de plus en plus des critères d'évaluation de la valeur des gens qui sont de plus en plus fortement institutionnalisés, plutôt, qui mettent l'accent sur les critères de performance sociale. Alors, ces deux tâches qui sont devant nous pourraient mener à davantage d'inclusion sociale, et cette inclusion sociale est un des marqueurs du bien-être collectif. Alors, au cours de la dernière année, j'ai eu l'occasion de m'impliquer dans un grand projet de recherche que la Robert Wood Johnson Foundation a lancé aux États-Unis. C'est une des plus grandes fondations qui supporte les travaux en sociologie de la santé. Et soudain, ils ont demandé à David Williams, qui est un expert sur les questions de santé chez les Noirs américains, de faire un projet sur pourquoi est-ce qu'il y a une telle disparité entre les groupes raciaux au niveau de la santé. Et ils se sont dit, bon, health is where you work, you shop, you reside, you play. Alors, ils ont décidé que si on attaque les questions de santé quand les gens sont malades ou ils sont morts, c'est trop tard. Alors, il faut donc repenser la question, et ils ont lancé un grand programme qui s'appelle Cultures of Health. Et leur but, c'est justement de se poser des questions. Comment est-ce, non seulement, c'est pas une question simplement de dire aux gens qui fument ou aux gens qui font pas d'exercice, fais de la bicyclette, mais c'est beaucoup plus d'essayer de comprendre comment créer des sociétés qui vont rendre la solidarité sociale plus centrale. Alors, ils ont demandé à une collègue, Mabel Mirazin, et à moi-même de lancer un numéro spécial de Social Science and Health qui va amener à l'attention de la communauté des gens qui travaillent sur les questions de santé comment est-ce qu'on mobilise pour la solidarité sociale, quels sont les mouvements sociaux qui peuvent amener à une plus grande solidarité sociale, etc. Alors, c'est des développements très intéressants qui ont été inspirés en partie par le programme Successful Societies, et qui est tout à fait, je pense, en lien avec ce qu'on a essayé d'implémenter. Nous, notre point de départ, c'était de dire les épidémiologues étudient the wear and tear of everyday life, la notion de allostatic load, comment l'inégalité, ils utilisent le terme rentre sous la peau, gets under the skin, et souvent les gens qui travaillent sur ces questions-là n'ont pas les... Ce qui caractérise notre groupe, c'est qu'on est des experts dans l'analyse culturelle et dans l'analyse institutionnelle. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux comment ces processus se diffusent, on essaye de travailler avec eux pour essayer de redéfinir un peu quels sont les thèmes de discussion. Et cette question des frontières très fortes qui sont créées par rapport aux pauvres et aux noirs dans le contexte américain est vraiment au centre du défi auquel on fait face, dans la mesure où les classes sociales vivent de plus en plus de façon isolée et la classe moyenne supérieure se sent de moins en moins de responsabilité envers les autres classes sociales, puisque de toute façon, il y a très peu d'occasions, très peu de contextes où les gens sont en relation les gens avec les autres. Les gens de la upper middle class vivent dans des suburbs où les écoles de très bonne qualité sont concentrées. Et il y a une privatisation de l'éducation qui fait que la segmentation de classe et la segmentation raciale a beaucoup augmenté au cours des dernières années, comme le démontre un certain nombre de travaux démographiques. Alors, vous voyez ici comment la question d'évaluation est quand même assez centrale aux questions qui étaient au sein de la première conférence, de ces frontières morales et frontières de classe et frontières raciales. Dans la deuxième conférence, j'ai aussi attaqué les questions d'évaluation et critères, mais cette fois-ci en mettant l'accent sur le milieu de la recherche et plus spécifiquement sur l'évaluation par les pairs. Aux États-Unis d'abord à travers le livre « How Professors Think » qui est sorti en 2009, puis dans divers contextes nationaux où les conditions de possibilité de l'évaluation varient. Alors l'idée de base, c'était de dire quelles sont les conditions de possibilité de l'évaluation par les pairs telles qu'on la connaît aux États-Unis. Une des réponses a été quel est le type de soi qui est formé par le système dans lequel les universitaires américains fonctionnent. Alors, et quelles sont les règles coutumières dont on se sert pour faire ce type d'évaluation. Un des arguments principaux du livre, c'est de dire la délibération démocratique est centrale. Après avoir publié le livre, j'ai analysé les conditions de l'évaluation universitaire dans d'autres contextes, comme par exemple le contexte chinois, où il y a des membres du parti qui sont toujours sur les comités d'évaluation. Alors, dans ce contexte-là, c'est sûr que la notion de délibération démocratique ne peut pas être au centre de l'évaluation par les pairs. Alors, il y a toutes sortes de paradoxes qui se posent, que l'on regarde même dans le contexte français, que j'ai analysé un peu après la sortie du livre, où en 2009, à la suite des réformes de Valérie Pécresse, il y avait la CGT qui avait publié des déclarations, avait même voté que le principe d'évaluation était une atteinte à l'autonomie des universitaires. Ce qui veut dire que ça a vraiment à voir avec la formation du soi. Qu'est-ce qui est compris comme étant essentiel à l'évaluation au prestige professionnel ou à l'encontre? Et dans le contexte de How Professors Think, j'avais vraiment démontré comment la capacité de puiser sur une expertise, pas une expertise dans le terme français, mais dans le sens connaissership, qui est développée au cours d'années et d'années de familiarité gagnée autour d'un sujet en particulier, légitimait, était une condition pour l'autonomie des chercheurs. Alors, et compte tenu qu'il n'y a pas de syndicat très fort dans le contexte des universités américaines, ce n'était pas contesté du tout de la façon dont c'est contesté ici. Et ces différences étaient liées non seulement à la présence d'institutions telles les syndicats français, mais aussi le type de concept de soi que les chercheurs peuvent développer dans le contexte de leur formation doctorale, par exemple. Parmi les règles coutumières que j'avais décrites, il y avait la notion de pluralisme méthodologique, de pluralisme disciplinaire. Alors ici aussi, la question de la pluralité des critères d'évaluation est très centrale. Et j'ai suggéré qu'il faut bien comprendre comment différentes disciplines brillent sous différents feux. Et ça, c'était une condition essentielle au développement pluraliste des sciences sociales dans le contexte américain où la science économique est vraiment maintenant dans une position d'hyper-hégémonie. Alors, et j'ai aussi écrit à Professor Sting peu après que le président de Harvard à l'époque, Larry Summers, avait déclaré publiquement que la science économique était la science supérieure parmi toutes, parmi les sciences sociales, et ça avait créé beaucoup de protestations compte tenu justement que le rôle d'un président de l'université, c'est de maintenir un certain pluralisme. Alors ça, c'est vraiment le programme normatif qui est derrière How Professors Think, une notion de pluralisme méthodologique et de pluralisme disciplinaire de telle façon à ce que « different disciplines » shine under different lights. Et dans un contexte où, par exemple, la sociologie ou la science politique sont de plus en plus soumises, ça vient de s'éteindre, peut-être que vous pouvez aller chercher le monsieur en charge du vidéo. Il a disparu. Qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, si on utilise comme critère d'évaluation, par exemple, les critères dont les économistes considèrent de plus en plus comme étant les critères uniques, ça veut dire qu'il y a un mouvement progressif vers un agenda de recherche pour les sciences sociales et pour la sociologie et la science politique en particulier, qui vont vraiment être à notre désavantage. Je ne sais pas pourquoi ça s'est éteint tout à coup. Alors, au-delà de « How professors think », je n'y ai pas touché, hein, ça tout simplement… Je vais continuer. Alors, au-delà de « How professors think », j'ai aussi essayé de développer un programme plus général en sociologie de l'évaluation en travaillant de concert avec des chercheurs nord-américains et européens qui s'intéressent à la question. Alors, j'ai proposé un programme de recherche portant sur l'analyse des règles coutumières d'évaluation telles qu'elles sont élaborées pour des objets particuliers. Alors, vraiment essayer de sortir du contexte spécifique de l'évaluation par les pairs pour réfléchir de façon plus comparative sur, essayer de voir quelles sont les règles coutumières d'évaluation d'un objet à l'autre. Alors, j'ai décrit brièvement un projet. Vous voulez que j'arrête ou…
Non, j'ai peur que le vidéoprojecteur…
Ah oui, vous voulez que j'arrête pour que vous… Non? OK. Alors, j'ai mentionné en particulier une analyse comparée des conditions du black boxing évaluatif, comparant le cas de la critique littéraire. Philippe Pachong, qui est une postdoc qui travaille avec moi, qui fait une analyse des gens qui font des book reviews pour le New Yorker, New York Review of Books, etc. Alaric Bourgoin, qui est un ancien étudiant du Centre de sociologie de l'innovation ici, qui a fait une analyse des cabinets de gestion pour voir comment est-ce que les management consultants font leur évaluation, finalement avec le cas de l'évaluation par les pairs que j'ai moi-même étudié. Et le but, c'était vraiment de comparer comment est-ce que les objets étant comparés, les livres, les… vous pensez que ça ne va pas aller? Ah, bon, c'est beau. OK. que l'on fasse de l'analyse de conseils de gestion, l'évaluation d'œuvres littéraires ou l'évaluation par les pairs. Les groupes en charge de faire l'évaluation sont certifiés de façon très différente. Les objets qui sont comparés sont comparés de façon très différente. Le formatage de l'évaluation elle-même dépend de supports matériels très différents et il s'en sort que les règles coutumières d'évaluation varient aussi. Alors, le but était de développer une sociologie de l'évaluation qui soit plus cumulative et qui combine les vertus des travaux américains sur la question en sociologie culturelle et économique avec les travaux européens et français en particulier, car il existe une très forte tradition dans l'analyse de l'évaluation ici, qui, quoique inspirée par la sociologie bourdieusienne, va bien au-delà. Alors, le but pour nous, c'est vraiment d'essayer de réfléchir sur le « black boxing processes », mais de façon comparative. Dans la troisième conférence, qui portait sur les expériences de la stigmatisation et de la discrimination aux États-Unis, au Brésil et en Israël, là encore, la question des critères pluriels était au centre de la discussion. Comme on examinait avec mes collaborateurs dans ces pays, on est un groupe de 7, on est en train de terminer un livre qui devrait être terminé très bientôt. On revisite la question de l'existence des critères pluriels d'évaluation en examinant comment des membres de groupes stigmatisés répondent au fait d'être traités de façon injuste. Alors, plus précisément, on analyse comment les expériences et les réponses données par des membres de différents groupes, les Noirs aux États-Unis, les Noirs au Brésil, les Éthiopiens Noirs en Israël, les Mizrahi qui sont les Juifs orientaux et les Arabes palestiniens en Israël. Comment leur expérience, la stigmatisation et la discrimination et leurs réponses varient avec la communauté, d'une communauté politique à l'autre, et en particulier, quelles sortes de réponses sont rendues possibles dans l'univers dans lequel ils vivent. Comment les répertoires culturels qui sont plus ou moins présents d'un contexte à l'autre rendent possibles différents types de réponses, mais aussi j'ai présenté le concept de groupité, qui est quand même un mot un peu absurde. Mais en anglais, c'est « groupness ». C'est un concept qui est devenu beaucoup plus populaire au cours des dernières années, qui a été en partie promu par Brubaker. Alors, dans notre livre, on opérationnalise ce concept de « groupness » et on explique comment, par exemple, le fait que les Noirs américains soient beaucoup plus prompts à confronter la stigmatisation. Et on explique ça en partie par les répertoires culturels qui les entourent, le Civil Rights Movement. Alors, c'est aussi l'expérience historique des groupes. Alors que il y a deux groupes qu'on a comparés qui ont très peu de groupness, les Noirs au Brésil et les Mizrahi en Israël. Alors, on propose une approche qui, justement, a à voir avec le type de processus sociaux que je vais décrire dans quelques minutes. Alors, cette troisième conférence touchait à une question normative, à savoir comment nos sociétés créent des conditions plus ou moins favorables à la reconquête de la reconnaissance par le plus grand nombre. Alors, j'ai particulièrement insisté sur l'importance de diffuser des répertoires contenant des définitions plus inclusives d'appartenance culturelle, cultural membership, qui peuvent agir comme des tampons ou des échafaudages pour résister à l'effet du fondamentalisme de marché. Alors, c'est l'une des conditions essentielles à la résilience sociale. Alors, vous voyez ici comment je retourne. Alors, d'une part, les psychologues qui analysent la résilience ont un peu une image de Superman qui résiste aux défis auxquels ils font face, mais grâce à ses ressources internes. Alors, le programme de recherche que le groupe Successful Societies a proposé, c'est au contraire une approche sociologique des conditions institutionnelles et culturelles qui nourrissent la résilience sociale, conçue non pas comme propriété individuelle, mais comme des caractéristiques de groupes sociaux qui sont rendues possibles par la façon dont la société dans laquelle ils vivent leur donne les ressources pour encourager ce type de réponse. Ainsi, encourager le bien-être collectif nécessite une meilleure compréhension de la façon dont la culture d'inclusion peut être promue par diverses instances politiques, par les médias, par différents groupes professionnels, etc. Alors, les sociologues et les politologues ont identifié quatre mécanismes qui contribuent à la diffusion institutionnelle transnationale. Alors ici, par exemple, les notions d'isomorphisme, d'apprentissage, de coercion et de compétition. Ici, je cite un certain sociologue, Frank Dobbin, mais je vais le contredire. Alors, faisant par exemple référence aux travaux de Michel Bakhtin, certains se sont penchés sur les changements idéologiques qui ont mis en évidence le caractère dialogique des messages, c'est-à-dire des messages qui sont suffisamment polymorphes pour être interprétés différemment par et pour séduire divers publics, les travaux de Robert Withnow, par exemple. Un autre papier qui a été particulièrement important sur ces questions, c'est Michael Schutzen, How Culture Works, qui analyse la question de qu'est-ce qui fait que certains messages deviennent résonnants comparés à d'autres. Je pourrais vous donner une liste beaucoup plus longue, mais je vais tout simplement vous dire que dans le changement, la perspective dont le groupe se sert, c'est plutôt que d'analyser dans l'optique de la production d'un changement culturel, la question de qui présente le message et comment ces messages peuvent être reçus. Alors, on peut penser, par exemple, j'ai mentionné dans les conférences précédentes, si on réfléchit de façon comparative au processus de déstigmatisation des pauvres aux États-Unis, des Noirs, des obèses et des gens qui ont le sida, quels sont les groupes qui ont contribué à la stigmatisation ou à la déstigmatisation de ces groupes? Dans quelle mesure est-ce que les experts médicaux, les experts légaux, les mouvements sociaux se sont mobilisés, les médias se sont mobilisés? Dans quelle mesure est-ce que les individus eux-mêmes se mobilisent? On voit par exemple que les Noirs sont dans une position mille fois plus forte que les pauvres. Les pauvres se mobilisent très peu pour se déstigmatiser dans le contexte américain. Il y a beaucoup moins d'experts qui se définissent comme leur porte-parole. Alors que dans le contexte des Noirs américains, il y a eu un très, très grand nombre d'experts légaux. Le mouvement de déstigmatisation est très avancé. Et on peut dire que la même chose est vraie aussi dans une certaine mesure pour la déstigmatisation du sida. Abigail Sagi a fait une analyse du processus de stigmatisation de l'obésité qui montre que ça a quand même beaucoup, c'est devenu beaucoup plus important au cours des dernières années et que le processus de déstigmatisation est loin d'être. Alors ici, on peut faire vraiment une analyse comparée des processus par lesquels ces mouvements opèrent à travers différentes populations et vraiment approcher ça comme des mouvements auxquels différents groupes contribuent. Alors, dans ce contexte-là, c'est non seulement l'action des individus eux-mêmes qui compte, mais aussi les facteurs structuraux qui sont tout aussi importants. Alors, par exemple, pour ce qui est de la déstigmatisation des Noirs américains, dont j'ai traité la semaine dernière, leur reconnaissance peut être particulièrement difficile dans un contexte où la ségrégation spatiale est très grande. Alors, Massey et Denton d'American Apartheid ont bien montré que près d'un tiers des Américains n'ont jamais de contact avec ont très peu de contact avec les non-blancs. Et aujourd'hui, 85% des Noirs résident dans des voisinages à majorité noire. En ce qui concerne les contacts entre les classes, la récession n'a fait qu'aggraver la situation, alors que les classes moyennes supérieures qui s'isolent par peur du déclassement et les pauvres qui font l'expérience de barrières plus élevées pour sortir des quartiers de pauvres dans lesquels ils habitent. Alors, c'est une situation de dualisme accru qui ressemble, je pense, quand même un peu au processus de société duale qui a été décrit ici à Paris par Bruno Palier et ses collaborateurs, où nous avançons progressivement dans un système ou d'une société duale où la conscience de l'étendue du problème demeure très limitée, avec approximativement 35% des individus qui appartiennent aux tiers supérieurs qui continuent leur vie comme si de rien n'était, et en grande partie inconsciente de ce à quoi les autres doivent faire face. Alors, avec cette augmentation de l'isolation culturelle entre les classes, il peut devenir de plus en plus difficile de reconnaître que nos destins sont liés à celui des autres. Et une très grande méfiance se diffuse rapidement dans un contexte d'isolation parmi les moins favorisés et qui, d'ailleurs, se blâment de plus en plus eux-mêmes pour leur situation. Alors, par exemple, il y a des travaux récents sur les gens qui sont en chômage de longue durée qui montrent bien à quel point ils ont internalisé leur faillite plutôt que de trouver dans leur environnement l'explication pour ceux qui vivent. Alors, dans ce contexte-là, je pense que c'est particulièrement important de revisiter la question de comment pousser les institutions et les producteurs culturels à s'attaquer au problème de la marginalisation, de la stigmatisation et des façons de rendre les frontières entre groupes plus perméables. Alors, comment peut-on élargir la définition de la citoyenneté culturelle, le filet associatif des concitoyens valorisés? Quels outils les travaux des sciences sociales nous offrent-ils pour penser à ces questions? Alors, une question complémentaire d'égale importance est de repenser l'inégalité de façon à saisir tant cette dimension distributive, qui a été, par exemple, très publicisée au cours de la dernière année par les travaux de Piketty, que leur dimension de reconnaissance, qui est vraiment la dimension qui m'intéresse. Alors, on peut vraiment reconceptualiser les phénomènes d'inégalité comme ayant les deux faces de Janus, qui seraient la distribution de ressources et la reconnaissance. Dans le contexte américain, la vaste majorité des ressources porte sur la distribution des ressources et pas du tout sur la reconnaissance. L'étude de la reconnaissance demeure le domaine des philosophes. Les travaux de Charles Taylor, de Nancy Fraser sur la question sont très cités, ou sinon des psychologues sociaux tels Bruce Link, ou Brenda Major, qui travaille vraiment au niveau de coping with stigma, mais les études demeurent extrêmement micro. Ils ne sont pas du tout liés aux questions de répertoire culturel qui sont si centraux à la sociologie culturelle à laquelle je me rattache. Alors, ce que j'essaye de faire et ce que je vais maintenant vous présenter un peu, c'est comment est-ce qu'on peut créer un agenda de recherche qui serait beaucoup plus centré vers créer des connexions entre ces deux aspects de l'étude de l'inégalité, qui est vraiment ce sur quoi le Successful Society Program se penche maintenant. Alors, qui serait vraiment le développement d'une approche des sciences sociales à l'étude des processus de reconnaissance. Et donc, l'agenda de recherche sur lequel on se penche et qui est aussi au centre du livre sur la stigmatisation et la discrimination aux États-Unis, au Brésil et en Israël, qu'on est à veille de compléter, où un des thèmes centraux, c'est que quand on interviewe nos 400 quelques personnes sur leurs expériences, la chose principale dont ils parlent, c'est de la stigmatisation et non pas de la discrimination. Le fait qu'ils sont ignorés, méprisés, sous-estimés, etc. Alors que la littérature américaine sur le racisme porte en grande majorité sur la discrimination, le fait de ne pas avoir accès aux ressources, au logement, à l'éducation, à l'emploi. Alors, un des thèmes centraux du livre, c'est vraiment qu'il faut rééquilibrer l'analyse de l'égalité de façon à ce qu'on mette autant d'emphase sur ces processus de stigmatisation qu'on en met sur les questions de distribution. OK. Alors, comme vous voyez, Michelle Lamont, she's had a kind of a normative turn. She's asking, you know, what are the changes? How should we tackle these questions now? Not only so that we can have a social science that is more responsive to the social problems that disadvantaged groups face. So it's a question certainly of reorienting fundamental social research on inequality, which is extremely important to me, but also thinking about how to engineer societies where recognition is available to a much wider range of people. So at one of the conferences I mentioned walking out of the subway in San Francisco and seeing a huge, you know, public announcement panel celebrating gender diversity, you know, Rainbow Nation, and what difference it makes to have a society where this is done and, you know, where, for instance, the question of gay marriage or gay adoption is really, you know, it's in the process of this. The status of gay is clearly in the process of being destigmatized, as we've seen. So, you know, this is the kind of processes that we want to try to understand better, how these destigmatization processes occur. But before going there, I think what I'm going to propose to you now is how can we develop a sociology of cultural processes and their place in equality that is deeper than what we have to date. So here I'm going to draw on this paper that came out, and I apologize. I know the Collège de France, you're supposed to only offer original material, so I'm going to disobey and summarize to you this paper, which I co-authored with two of our graduate students, which is, for me, a very important paper, because I think that what we're doing in this paper is kind of opening new directions for research that I think will help us develop this agenda of thinking of inequality as having to do with stigmatization as much as distribution issues. So what we do in this book is that we first take as a point of departure, if we think, when you teach a basic undergraduate course on inequality in the US, there's a number of questions that are central. You know, what are the classics that are on the syllabus? So typically, the classic will include the concepts of exploitation and domination, you know, all these type one processes that have largely to do with the monopolization of resources, what I was just talking about. And for a long time, this is basically what defined the teaching of inequality in the US. Since Bourdieu's book became so influential, we've seen in the American context a large number of books that were inspired by Bourdieu in part, but also by Collins and others, which talked about the access to non-material resources. So now the exercise inequality comes not only from the ability to extract surplus value or to exploit, but also the ability to monopolize non-material resources through, for instance, cultural capital. So that's what we call type two processes. And then there is a large literature where you don't have any actor, bad guys doing things. The notion of ecological effect, neighborhood effect, for those of you who are urban sociologists, you will quickly recognize how this operates. In this case, there's no agent. Okay, so what we did is we compared all these, here I'm jumping, I had a problem with my PowerPoint earlier, so I'm gonna go back and forth a few times in in the PowerPoint to explain to you what we're trying to do. So in the first column here, processes concerned with the first dimension of inequality, material inequality. The second is symbolic inequality, and the third kind is location-based inequality, so basically ecological effect. And the fourth column is what we're concerned with, these cultural processes. And what do we mean by cultural processes? We're talking about, it's very amazing, when you start thinking about it, what are social scientists interested in? Most of what we're studying are social processes. All these words that ends with ization, modernization, you know, rationalization, exploitation, etc. So if we think systematically about what are the processes where meaning-making is central, this is what we're defining as cultural processes, but we're interested in how they feed inequality. So if we revisit in the first column the classical, you know, mechanisms of production of inequality as studied by Marx and Weber, for instance, opportunity, ordering, closure, etc. The main outcome of interest was the monopolization of material resources. And these were actions that could be continuous, but you also had the big bad guys doing the action, the capitalist. So there was always a notion of top-down people, the agents of exploitation was a class. And so you had a dominant party, and that dominant party often was described as doing it intentionally, and the action was determinist. So in those frameworks, there's always the notion that culture does not really matter that much. What really matters is who gets what, right? In American sociology, you have a number of classics like Domhoff. It's all about who gets what. Now, with the what I could describe as the Bourdieusian turn, the focus is then put on symbolic inequality. So how inequality is generated now is through symbolic violence, self-relegation, distinction, and the purpose is the monopolization of non-material and material resources. Similarly to the type one, you have ongoing and discrete action, and you have a dominant party, a dominant class. So there's a lot of similarities, but the means through which inequality is produced is quite different. And the third case, we just put it there in part because I'm in a department full of people who study neighborhood effects, so people like Bill Wilson and others, so we said, well, let's put it in there. And what you see here is basically, you know, the inequality, the poor are poor because of the environment in which they live, so there's no, the agency is much less crucial. The cultural processes that we're interested in are very, very different. So to go back, what inspired this for us is a series of papers, which are listed here, which all have to do with various kinds of cultural processes where intersubjectivity is central, and they are all ongoing processes that are co-produced by dominance and dominated people. They're also the results, the state, bureaucracies, there's the role of organization and bureaucratic structures in the institutionalization of these changes. So we wanted to think about what these various kinds of processes have in common, and do they feed into inequality in a way that could be described as similar to these type one, type two, and type three that I just described. To step back a little bit, I should say that when we started working on this, it's partly because you had the publication of two books that got quite a bit of coverage. The first column here, Framed by Gender by Cecilia Ridgway, the year that, you know, she was, when we wrote this paper, she was president of the American Sociological Association, and she's a social psychologist. She starts with gender stereotypes, and she jumps from, you know, the gender stereotypes through macro processes of inequality, and you had something very similar in Doug Massey's book, Categorically Unequal, he starts with these gender stereotypes that women and men are either competent or warm, you cannot be the same. So often social psychologists are using these basic, I think, fairly universalistic statements about what organizes cognitively how we categorize people. And then in both cases, they go directly from these cognitive structures to macro inequality. And as a cultural sociologist, as you can see in the last column, my collaborators and I said, well, there's a big black box here, which is, you know, how do the cultural processes operate in the middle, which were not at all conceptualized by social psychologists such as Cecilia Ridgway, but also by demographers such as Doug Massey. So our goal was really to understand the intermediary role of cultural processes. The middle column here, you have several books that tried, often influenced by Bourdieu and others, to understand how cultural processes feed into macro social processes, but you know, for different reasons, we thought, okay, these are the books, they're helpful books, but they were not dealing with what we were really concerned with. So basically, that's how we understood the landscape as we were starting to work on this project. At the moment also where in cultural sociology there was just then a lot of interest in cognition and culture. With Paul DiMaggio, for instance, who wrote a 98 paper which really was urging sociologists to draw much more on cognitive science. So here you have a little bit the chronology of how these various approaches developed, and if you want, you know, we're trying to think about these pathways as not mutually exclusive. You know, it's more like, let's think about these pathways in a more plural way to really think about how they all feed together into inequality. It's not that if you focus on cultural processes, cognition dynamics are not at play anymore, or, you know, monopolization of material resources, you know. Basically, the opposition between the materialist and the culturalist is plain stupid. We want to think about the pathways as multiple and really try to reach a more detailed level of understanding in how these pathways operate. So that's what we try to do in this paper. So you can see the last column that describes what these cultural processes, what would be their characteristics. Well, we really think about it a little bit like using Giddens' model. You know, it's the unfolding character of everyday life. They are constantly operating in as we are producing collectively, intersubjectively, you know, shared definition of everyday life. So it's strongly phenomenologically influenced as an approach, but it's also very much connected with the distribution of resources and recognition in particular. It involves coordination of action. It is both intentional and unintentional, and most importantly, it opens and closes possibilities. So in this particular paper, we decided to focus on two broad types of cultural processes. And analyze how they may close and open opportunities. And we decided to focus on the two families we decided to focus on are identification and rationalization. And more specifically, we're going to define them. So for identification, we can talk about the model by Brubaker and Cooper, their 2000 paper in Theory and Society, which is a very famous paper, where I think what they're doing is very similar to Richard Jenkins' 1996 paper, which is to talk about social identity as involving both self-identification, what does it mean to be a Quebecois for a Quebecois, but also group categorization. How do English Canadians, Americans, and others define this group identity? And the identification is the process of those two aspects. And we're talking about identification, which means that it is ongoing. It's not something finite. It's something that is constantly reenacted. And if we look, and the other general process we're looking at is rationalization. And here we're drawing on Weber, focus on means, ends, kind of logic, and also the use of universal rules. And in exemplifying the kind of process that we're concerned in this paper, we have two sub-processes, rationalization and stigmatization for the case of identification, and evaluation and standardization for the case of rationalization. And what most of the paper does is really to describe in detail how these processes operate, to show how they both open and close possibilities for groups, and how they feed into the other types of type 1, type 2, type 3 that I described earlier. I'm looking at my watch to see how much time I will have to get really into the detailed demonstration of how the argument unfolds. Maybe before going there, I will simply bring you to the conclusion of the argument, and then I'll come back and do the demonstration. So here this slide is really showing how these various processes co-produce inequality, and here this slide kind of tells you the same thing. With these various processes feeding into it. And this is actually what, if you juxtapose the one with the black box, the social psychological model at the one hand, and on the other hand, the outcome, the macro production of inequality, this is how we suggest that it is operating. So the meso-level cultural processes that we're concerned with are feeding the other levels, which in turn are feeding into different aspects of inequality. It's a little bit cybernetic and systemic in general. I really hate these models that have arrows and stuff, because I feel like they lack any notion of concept, of context. But so to come to the conclusion, it is really the normative question that I develop in the first part of the talk, which is to say, okay, if we are developing a sociology of recognition that is really about how to maximize the number of people who can be given full or recognized full cultural citizenship, what kind of social changes are needed? And we're talking here about the last row here, public awareness campaign to address stigmatization, for instance, gay pride manifestation. The first case is the case of food stamp in the US, which is a case of a means-tested policy for redistribution toward the poor, which is highly stigmatizing because people, unlike other policies such as allocation familiale here, which are universalistic, we can, systematically compare ways of addressing poverty and to see which are stigmatizing or not. And in at least the American context, the question of whether or not redistributive policies are stigmatizing is never ever raised. It's like the notion of stigmatization simply is not part of the landscape. Okay? It's always about distribution of resources, never about stigmatization. And then I mentioned the case of the research by Irene Blumrad, who shows, looking at Toronto, for instance, she used Kimlicka's Multicultural Policies Index and shows that societies which include most multicultural policies, for instance, teaching languages to immigrants, making various resources available to them so that they will feel valued and, as valued members of the community. She systematically looked at how a number of societies vary along these lines and the extent to which immigrants want to run for elections, for instance, and showed that societies that have more multicultural policies are also societies where immigrants are more cognitively and emotionally invested in the host societies, by as manifested, for instance, in the fact that they're more willing to run for local elections. So, that's the normative takeaway. To reconnect to the first half of the talk, but now I'm gonna step back a little bit and talk to you about how these processes operate and what we're talking about here when we're talking about them. Okay. Okay, so I've summarized what I meant by identification. And I'll give you two examples, the case of rationalization and stigmatization. And now you know that what I'm doing in developing this is that I'm reconnecting with some of the studies that I've talked about already. So stigmatization and racialization are really the central concept of the book, the collaborative book on Israel, Brazil, and the US. So we're drawing here a lot on the material from this, this book. So rationalization is the process by which social markers or biological and phenotypic differences between human bodies are imbued with significance by social actors. So it's really a process of constructing intersubjective agreement. Meaning making is central to this process, as phenotypic markers do not speak for themselves but have to be interpreted through shared and locally embedded categories. Moreover, rationalization necessitates that actors share an understanding of the significance attached to these markers and how they differentiate different groups. And then, of course, we know that, you know, census, there's many, many ways in which institutions contribute to the institutionalization of the racial categories. At the same time, we say racialization implication for inequality can be ambiguous and open-ended. In many instances, actors who engage in racialization intend, in fact, to counteract oppression and inequality through calls for social inclusion and political representation. It's clear in the Black Power movement, for instance. They claim they want to be racialized. They embrace their collective identity. More specifically, the subordinated contribute to the reproduction of group boundaries by embracing their ethno-racial identity, thus participating in the stabilization of racial classification systems. Hence, the generation of inequality along racial lines come not primarily from above, as in dimension two, but is produced conjointly and relationally by the dominant and the subordinated groups. In other cases, racialization by dominant groups is more unidirectional, for instance, through the mobilization of racial stereotypes in the workplace, and closes opportunities for the subordinate groups without the direct input of the subordinated group. Thus, the outcome of interest is open-ended and has to be traced on a case-by-case basis. So you cannot presume that these mechanisms always result in inequality. Okay, life is unfolding and it opens and closes possibilities. So just en passant, you can see how this framework is radically different from a Bourdieusian field analysis, right? You don't start with a zero-sum assumption. Whether you have concentration of resources is always open-ended. So a body of social psychological literature has uncovered the cognitive process that enabled the cultural categories of race to be socially meaningful. So here we come back to Doug Massey, who shows how often unconscious cognitive classification of groups along racial lines has resulted historically, such that discriminatory lending practices and de facto segregation has taken place. So you have, you know, many examples of sociologists to talk about such racialization process and how they have led to the monopolization of resources through, for instance, discriminatory housing practices, which we offer as an example of how it opens and closes possibilities. through racialization, individuals and groups are being not only sorted out, but also put on different paths for accessing material and non-material resources, often through the impact of apparently neutral institutions. In this case, in this sense, cultural processes such as racialization are preconditions for inequality that results from the process most often considered in dimension one and two. However, because racialization often results in a devaluation of certain categories of individuals, it also acts as direct resources of inequality in itself, that is, misrecognition. And the same is true for stigmatization. So that's the kind of demonstration. Here we refer to Wendy Roth's work, which shows how categories, the opposition between blacks and whites, which is so central in the US, is transported to Puerto Rico and the Dominican Republic by immigrants who go back. So it's really a study about these racialization processes in a transnational context. Then we deal, I'm not going to have time to deal with the four processes, but basically stigmatization. I mentioned earlier Abigail Seghi's book, which does kind of the same for the case of stigmatization of fat, and she describes the process by which it came to be stigmatized. But those who are stigmatized can also be the dominant. You know, we mentioned the book of Leslie McCall, The Undeserving Rich, which shows how, in the context of a concentration of riches in the United States, or even in my book, Money, Morals, and Manners, how the upper half can be stigmatized for various reasons. So, and then we turn to the processes of rationalization. And so I've briefly defined, I said that we're drawing on Weber's mean end orientation and the application of universal and impersonal rules. And then we examine the wonderful book by Steve Epstein on standardization. Here, we don't have it. Oh yeah, here you go. Which is, they define standardization as the construction of uniformities across time and space through the generation of agreed upon rules on the part of social actors. So it is a process in everyday life which frequently has unintended consequences. So the construction of uniformities become habitual and taken for granted once the agreed upon rules are set in place and codified into institutional and intersubjective scripts. This process of standardization is part and parcel of the rationalization and bureaucratization of society. And then we have multiple examples of how the adoption of such standardized rules has then led to greater inequality. The case of Kat Neckerman's study of how the low-income populations of Chicago came to be really disadvantage after standardized testing was adopted because, you know, low-income blacks in particular were not very well prepared. So it's a case of an unintended consequence, but the adoption of standardized rule has led to growing inequality. But you cannot understand how this happened without first considering the standardization processes that feed into, again, type 1 and type 2 inequality. And finally, we consider evaluation, cultural process that concern the negotiation, definition, and stabilization of value in social life. And we review a number of studies about how this operate. And you have the same notion that evaluation can show how universal principles and formal criteria of evaluation can, you know, open and close possibilities. So here, you know, while one of the conclusions is while cultural processes operate, and that's really like here we're at the level of fundamental sociological theory, operate in micro-level interactions between actors through the application of meso-level scripts and frames, they are also instantiated at the meso level through the practice of organizations, firms, and institutions who are actors themselves. And this, in turn, this meso level feed into macro inequality. So this is where this stands, and I think, you know, what is ahead of us, if people think this is interesting, we're going to continue to do work on this. It's a little crazy as a project, but I think that, yeah, we can revisit, for instance, exploitation or domination as cultural phenomena too, which is precisely what Bill Sewell, the cultural historian, is now doing. You know, when I started in sociology, we all always, those of us who started when Marxism was still influential, we always thought of these phenomena as economic in that instance. But now we can really revisit them, to really think of them, about them in terms of this kind of multi-dimensional production of inequality that operates not only in the true processes of monopolization of resources, but also through the structuration of reality in such ways that resources and legitimacy and recognition get channeled differently through different pathways. So really trying to complexify how we think about the pathways of inequality a little bit along the lines of what we're trying to do here. So just to go back to Bourdieu, since for me, as I was a student here, that's a little bit where I started, you know. And one of my main criticism of Bourdieu was always that I thought he had an extremely flat understanding of the concept of the self, that he thought, you know, essentially he was a Hobbesian, you know, man is a wolf for man, and I was interested in trying to think about reality as a much more multi-level, you know, animal. I think to think about mechanisms of production of inequality as open-ended, as sometimes resulting in the monopolization of resources and sometimes not, is much more in line with the kind of social science that is more attuned to the semiotic aspects of social life, where we look at not only processes of definition of reality, but also processes by which intersubjective agreement gets to be built and crystallized and institutionalized. So it really moves us far away from the normative questions with which I started, to really try to think about, you know, really fundamental questions about how we think about social life. So I think I will stop here for now. I think that's enough for today.